Le but marqué à 2 minutes 22 par Christina Dimitriou. Avec l'aide de Sébastiano Brunet, Lucie Beaulieu, Tarek Malki, Jenny Agostino, Edith Chen, Emmanuel Jean-Pierre.
Au hockey, comme en immobilier, pour réussir, ça prend toute une équipe. Et avec vos 5000 courtiers Remax, la force du réseau roule pour vous. Remax est heureuse de s'associer à Martin McGoyeux et Danny Dubé pour vous présenter le tout nouveau balado Bon Match.
C'est 23.
Vous aimez les voitures? Vous êtes intéressé par l'industrie automobile, la transition électrique? Vous voulez être au courant des nouvelles tendances sur le marché? Voici Ça tient la route avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Salut tout le monde, bienvenue à Ça tient la route, Alain McKenna, salut.
Benoît, c'est-tu l'accent comme Elvis un peu que j'entends là, dans ta voix?
Ah, c'est parce que j'en reviens de Nashville.
Ah, je suis peut-être pas à la bonne place, mais
thank you, thank you.
Thank you very much. Yeah.
Ouais, on était là cette semaine, côté de Nashville au Tennessee. On va en glisser un mot. On est allé essayer, en fait, une, comment qu'on dirait ça? Une légère modification du Volkswagen ID4.
Ouais.
L'idée de base, c'était plutôt d'aller visiter l'usine de Chattanooga qui va maintenant fabriquer des ID4. D'ailleurs, je vais vous en parler.
Ah,
c'est mon essai routier de la semaine. Vous l'aurez probablement compris. Puis on va aussi parler de l'usine. Surtout qu'on a été visiter, moi, ce que j'appelle le département électrique, c'est-à-dire qu'on a construit de toutes pièces un bâtiment où on fait des tests de batterie, des tests, comme l'a si bien souligné notre personne responsable qui fait visiter. C'est ici qu'on massacre les batteries.
Ah bon?
Donc, on les teste évidemment avant d'aller en production pour s'assurer qu'une fois sur la ligne de production, ces batteries-là vont à peu près pouvoir subir tous les mauvais traitements possibles et imaginables.
Mm-hmm.
Mais c'est très avancé ce qu'on a. Je vais vous en parler un peu plus loin dans l'émission.
À Chattanooga!
À Chattanooga, au Tennessee. on a pris une première journée à Nashville. Évidemment, on est allé prendre un petit verre sur Broadway. Tu peux pas aller à Nashville sans
classique.
Faire... ben oui, écoute, il y a un band aux trois portes, littéralement. Là. Tu finis juste d'entendre la band d'où tu viens de sortir, puis hop, t'entends déjà la prochaine qui joue.
Ben oui.
Alors, on a fait ça. On va aussi avoir, tiens, comme invité, Daniel Breton, qui est devenu un régulier sur l'émission,
mm-hmm.
parce que là, on voudrait renforcer un peu la loi des véhicules zéro émission du côté fédéral. Il y a un projet de règlement qui est en marche, parce qu'on le sait que la loi des VZE existe depuis 2018.
Il rampe à la vitesse où ça avance.
Oui, puis bon, Daniel, évidemment, qui est PDG de Mobilité électrique Canada, lui, non seulement appuie ça, mais aimerait bien aider le gouvernement à embrayer un peu, comme dirait l'autre.
Mm-hmm.
Alors, Daniel va venir nous parler de ça tantôt. Et toi, en essai routier, tu nous proposes quoi cette semaine?
Écoute, je propose un véhicule qui est littéralement un minibus. C'est le Jeep Grand Wagoneer L.
comme si le Grand Wagoneer t'as pas assez grand.
Ben non, il y a une version allongée de 30 cm, le L, très long.
T'as pas peinture en jaune avec une ligne noire, non?
Quand t'arrêtes, il y a une petite pancarte qui s'avance du côté. Véhicule qui écoute, c'est de la demesure, de la décadence, tous les adjectifs.
5,7 mètres. Gardez ça en tête pour le
sens.
Fun, là.
Ah oui.
Ça, c'est passé 20 pieds, ça. Si on parle dans le vieux langage, là.
Ouais.
Alors, c'est pas grand, c'est énorme. Fait que ça, tu vas nous revenir là-dessus tantôt. Puis évidemment, on va commencer avec nos habituelles petites nouvelles de la semaine. Je te laisse aller.
Ben, écoute, on a de la nouvelle, on a de l'information additionnelle à propos du Mitsubishi Outlander PHEV, l'hybride branchable en bon français. Mitsubishi Canada, en fait, a dévoilé cette semaine le prix de détail suggéré pour son nouvel Outlander à moteur, donc hybride branchable. Et la triste nouvelle, dans le fond, c'est qu'il va coûter plus cher que son prédécesseur.
Pas mal plus cher.
Peu importe la version choisie.
Ouais.
Écoute, légère bonne nouvelle dans ça, il va y avoir plus de versions proposées par Mitsubishi Canada selon vos besoins, mais... surtout dans les versions les plus équipées, le prix va être 6 000 $ plus élevé qu'il l'était avant. Les prix officiels, ça démarre à 46 538 $ en version SE à 4 roues motrices. Ça, c'est l'autre affaire, c'est que c'est toutes des versions à 4 roues motrices. Donc ça, au moins, c'est bon. Et ça grimpe à 51 000 $, à 54 000 $, et ça finit avec une version GT tout équipée de 57 248 $. À titre comparatif, l'Outlander PHEV de base coûtait 42 000 $ et ça se termine à 52 000 dans les versions des années précédentes.
Nice.
Bon, évidemment, il faut soustraire là, à ce prix-là l'aide gouvernementale à l'achat fédérale et provinciale. Sur les sites d'information qui n'ont pas été mis à jour, l'aide est pour l'instant de 5 000 $ au total après taxe.
OK.
Est-ce que ça va changer parce que la batterie est plus grosse? C'est à voir. Ça pourrait monter à 10 000 $, on ne le sait pas. Ça ferait un véhicule quand même qui coûterait entre 36 et 41 000 $ là, selon le cas. La question à se poser, c'est est-ce que ça vaut la peine à ce prix-là quand même?
Ben, c'est parce que considérant qu'un Chevrolet Equinox qui s'en vient bientôt sur le marché va être à 35 500 $ canadiens, avant les subventions qui vont être de 12 000 $ poser la question, c'est y répondre.
N'est-ce pas? Surtout que l'Outlander, bon, c'est un VUS compact ou intermédiaire, selon où vous vous situez, là, qui est pas non plus particulièrement révolutionnaire, si on se comprenne bien. Son groupe électrique a quand même gagné en importance. Là, sa pile est 45% plus grosse à 20 kWh qu'elle l'était avant. Ça monte, bon, ça grimpe son autonomie électrique à 61 km par charge en moyenne, ce qui est un bon gain.
C'est correct.
Exactement.
Mais moi, j'aimerais ça, 80, 90, ben, là, quelque chose qui donne envie de l'acheter un petit peu plus que ça. Là.
Et plus loin que ça, ça fait une consommation combinée, là, ville, bon, batterie, essence, tout le kit, là, de à peu près 3,5 litres au 100 km selon Mitsubishi. Donc, ça veut dire qu'en réalité, ça va être un petit peu plus élevé que ça. Pour un hybride branchable, bon, OK, dans le grand spectre de la vie, c'est peut-être pas mal, 3,5 litres au 100, mais pour un hybride branchable de ce format-là, c'est pas non plus exceptionnel.
Non, parce que je prends les Prime chez Toyota, le Prius Prime, pour en nommer un, bon, qui est pas un utilitaire, mais moi, j'ai beaucoup de gens que je connais qui en ont un, mm-hmm. puis eux autres roulent entre 2 et demi, là, de moyenne, en branchant, évidemment.
Exact.
Mais on est quand même en bas, là.
Oui, non, c'est ça. Puis, ça donne un véhicule qui, et c'est un peu ça le problème avec Mitsubishi, c'est que la finition de ce véhicule a pris vraiment du retard depuis quelques années. La finition là, d'habitacle, etc. C'est pas aussi raffiné que pourrait l'être des modèles concurrents.
Ouais.
Japonais, européen, peu importe.
Fait qu'il y a un petit peu de travail
c'est
à faire.
À suivre. Évidemment, bon, Mitsubishi, on s'entend, là, joue sur ses forces, là. On essaie d'avoir le prix le plus raisonnable possible, entre guillemets. Quatre roues motrices, on s'entend. Hybride branchable. L'affaire avec l'Outlander, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils ont pris tellement de temps à le mettre en marché la première fois que c'est comme s'ils n'avaient pas réussi à rattraper ce retard-là et garder une avance qui aurait été intéressante.
Le problème, c'est qu'à mon avis, on a trop attendu avant de présenter cette génération-là parce que ça roule en Europe depuis déjà 3 ans.
Voilà.
Ça roule en Australie, ça roule un peu partout, puis on attendait, puis on le sait à quelle vitesse ça progresse dans ce monde-là, l'électrique et l'hybride branchable.
Ben oui.
Par le temps qu'ils sont arrivés ici, il y a déjà d'autres choses de plus intéressantes qui vont se présenter.
Et tu l'as dit, ça prend la forme de au moins deux véhicules, deux VUS tout électriques, l'Equinox et le Blazer chez Chevrolet, qui en plus sont plus abordables avec l'aide du gouvernement. Donc,
On passe de l'électrique doux à les véhicules sans conducteur. Fait que regardez bien sur la route bientôt, vous pourriez passer voir un camion de livraison de Provigo, de l'Oblaz, puis il n'y a pas personne à bord.
Il n'y a pas personne. Ça va être en Ontario pour l'instant, cela dit, mais c'est une première canadienne. L'épicier ontarien Loblaw s'est entendu. En fait, c'est entendu là quelque part en 2020 avec une société qui s'appelle Gatik, une société de technologie qui a des bureaux à Toronto et en banlieue de San Francisco. Donc, les deux entreprises s'est entendues pour tester des véhicules de livraison d'un entrepôt à l'autre. Donc, c'est pas nécessairement de livraison, ce qu'on appelle le dernier mille. Là. C'est vraiment le... Et là, évidemment, ils ont inventé l'expression le mille intermédiaire, ce qui veut pas dire grand-chose. mais là, la nouveauté, c'est que à partir de cette année, on va retirer, parce que jusque-là, il y avait toujours une espèce de conducteur de sûreté à bord.
Qui était là, c'est ça. Qui était là par sécurité, t'sais, pour vérifier si tous les systèmes fonctionnaient.
Bon,
et
ben, il sera plus là. Il va y avoir des véhicules
parce
autonomes
qu'il y a pas
sans
eu,
humain
je pense
à bord.
Ils ont dit que ça faisait 2 ans qu'il y avait eu aucun incident, que tout se déroulait comme une lettre à la poste. Puis là, on a dit, bon, OK, finalement, tout va bien. On enlève ça, les conducteurs.
Exactement. Ce qu'on fait, en fait, c'est que en termes techniques, hein, parlons un peu de technique automobile, soyons nos experts que nous sommes, on passe du niveau 4 limité à un niveau 4 tout court de conduite autonome. Donc, ça veut dire qu'on vient faire
Fait qu'il y a encore un volant dans l'auto, mais il n'y a plus de conducteur.
La prochaine étape, effectivement, pour
la prochaine
au niveau
étape,
5,
c'est qu'il
n'y
aura plus de conducteur.
Volant.
C'est ça, il n'y aura plus de volant.
Il n'y a plus de volant non plus. C'est un gros pas en avant pour la conduite autonome, et je veux dire de deux façons. C'est un gros pas parce que ça, c'est en Ontario, donc c'est hiver comme été, donc hiver.
Oui,
donc
Ontario, on s'entend là, que c'est nos voisins, puis c'est pas une question de température, puis il est parfois plus chaud l'hiver, puis les routes sont pas mieux dégagées. Bon,
exact. Ils sont pas toujours plus belles non plus, contrairement à ce que le
pour avoir des débats là-dessus.
Ouais. Mais cela dit, donc 4 saisons, au cours des 2 dernières années, Gatik dit avoir accompli pas moins de 150 000 livraisons en mode autonome, et son taux de réussite est de 100%. Donc, il n'y a eu pas d'accrochage, pas d'accident, pas de fausse route, pas de perte en chemin ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est un gros plus. En plus de ça, Gatik a dû se soumettre à des examens imposés par l'Oblaz, son partenaire commercial, et le gouvernement de l'Ontario aussi. pour justement s'assurer que c'était sécuritaire. Gatik et Loblaw aussi se sont ont travaillé de pair là, avec les municipalités où les camions passaient, les forces policières, les pompiers, tout ça, pour s'assurer que tout le monde était prêt à réagir s'il arrivait un pépin. Donc, ils ont vraiment créé aussi une espèce d'environnement de sécurité au cas où. Parce que qui arrive à un accident, ben faut le savoir, faut le prévoir.
Exact. Et il faut dire que ces camions-là font souvent les mêmes trajets.
Exact.
Et qu'il y a de l'intelligence artificielle à bord de ces véhicules-là et qu'on apprend aussi les trajets. Donc, on développe une certaine habitude dans les trajets qu'on fait. D'ailleurs, il y a Canadian Tire qui est avec Newport en
aussi,
ce moment.
Exactement.
Pour la même affaire, c'est-à-dire entre les centres de livraison à travers le Canada, il va y avoir des camions qui vont faire des trajets fixes, qui vont à peu près toujours être les mêmes. Et là, on est en train de travailler pour faire la même chose du côté de Canadian Tire.
Voilà. Et cette espèce d'application d'un entrepôt, tu sais, comme à l'interne d'une entreprise, d'un entrepôt à l'autre ou d'un entrepôt vers le commerce, c'est vraiment la première application de conduite autonome qu'on va voir. Déjà, ça commence, mais ça va être de plus en plus fréquent parce que c'est répétitif et c'est facile à encadrer. Gatik, d'ailleurs, aux États-Unis, a aussi des ententes avec Walmart, entre autres, qui est quand même pas un petit joueur.
Qui est un très gros joueur.
Et une compagnie de pâte et papier, là, qui appartient à un géant industriel américain qui est moins personnel, mais qui quand même permet de comprendre qu'on peut aussi transporter des choses comme, par exemple, des troncs d'arbres dans des régions plus reculées. Dans un contexte où le secteur du camionnage a sa propre pénurie de main-d'œuvre, de camionneurs, de
personnel. Puis pas un petit peu, là, beaucoup.
C'est urgent, de certaine façon, de trouver une façon de compenser et cette application-là pour effectivement débloquer rapidement. Gatik, en ce moment, a 144 millions de dollars en poche obtenus à travers différentes rondes de capital d'investissement. Donc, a les moyens, au moins, de ses ambitions à court terme. On va voir si ça va s'appliquer plus largement à partir de cette année ou l'année prochaine, mais ce serait fun de voir parce que ça, c'est un projet qui est permis en Ontario par le gouvernement de l'Ontario.
Exact.
On veut beaucoup développer la voiture intelligente au Québec aussi. Ce serait peut-être le fun d'avoir un cadre légal ou juridique qui permettrait de le faire et d'utiliser des applications comme celle-là chez nous.
On va parler au nouveau gouvernement de la CAQ.
On va leur demander.
On verra bien qui sera là. C'est peut-être notre ami Bernard Drinville qui sera au transport.
Ça serait drôle.
Je m'avance, mais monsieur troisième loyer pourrait peut-être. En tout cas, on verra, mais ça sera une bonne nouvelle pour nous. Bernard, on peut l'appeler directement. Ça pourrait être pratique. Tiens, une dernière, en terminant, tu parles d'autonomie, mais on continue dans le même sujet. Hyundai vient d'investir pas moins de 17 milliards de dollars pour pousser plus loin l'autonomie dans les deux sens du mot, c'est-à-dire l'autonomie conduite autonome et l'autonomie pile, pour avoir des piles de plus grande autonomie. En fait, c'est des systèmes d'intelligence artificielle, des mises à jour de logiciels over the air, les fameux OTA là, dont on parle. En fait, d'ici 2025, Hyundai a déclaré que tous les modèles électriques et à essence, y compris ceux fabriqués par Kia Genesis, parce que c'est dans la même famille, vont offrir des capacités de mise à jour par voie aérienne. Donc, on vise à faire comme Tesla. Mm-hmm. On vise à faire comme GM qui s'en va là-dedans avec Ultium et compagnie. Il y a même Toyota qui travaille sur un projet là-dessus. La plupart des constructeurs visent à travailler là-dessus parce que la beauté, c'est qu'on peut, par voie aérienne, faire des mises à jour, augmenter l'autonomie d'une batterie, ajouter des programmes aux véhicules, améliorer les contrôles, etc. On va même avoir une nouvelle plateforme. Là, pour le moment, le premier véhicule qui va avoir ça, c'est la Ioniq 6.
OK.
Sur la plateforme qui est déjà avec le véhicule, mais pour 2025, il va avoir des nouvelles plateformes qui vont être connues sous le nom de EM et ES. En fait, la EM va être la base d'architecture modulaire intégrée pour à peu près tous les modèles qu'on connaît électriques du côté de Hyundai, Kia et Genesis. Et la ES, ça va être une plateforme dédiée pour des véhicules spécialisés. Autobus, ambulance, et tout ce qu'on peut faire. Et ce qu'on va offrir, on va dire que on va les plateformes EM avec les piles qu'on va avoir à ce moment-là vont pratiquement doubler l'autonomie des modèles qu'on connaît actuellement.
Wow.
Donc on parle de là on est entre 300 et 400 km là, dépendamment des modèles, fait que figurer un 6 à 800. Ces plateformes-là sont en cours de développement et on prévoit d'avoir des voitures connectées de plus en plus. Et on veut aussi viser à faire comme BMW, c'est-à-dire à offrir des services par abonnement.
Donc, tant que c'est pas le siège chauffant.
Bon, ben c'est ça. Là on n'a pas encore fait la liste, mais il est prévu que des clients aient la possibilité d'améliorer les fonctionnalités de leur véhicule n'importe où, à tout moment, sans nécessairement se rendre chez le concessionnaire. Donc, si vous voulez, je ne sais pas moi, un abonnement à telle affaire ou à telle affaire, boum, 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 ça se fait par voie aérienne. Mm-hmm. Demain matin, vous êtes abonné, ça vous coûte 19,99 par mois, puis bon, c'est réglé. Alors ça va être... Évidemment, les compagnies voient là une petite mine d'or, là, tu sais, en considérant le nombre d'abonnés qu'on peut avoir, le
potentiel...
Donc,
ça va pas déraper, parce
bon,
que...
Mon problème, moi, c'est ça. Mon problème, c'est de dire, regarde, moi, je paye déjà assez cher pour un véhicule. Mm-hmm. Peux-tu me mettre tout ce que que j'ai besoin dedans,
ouais,
sans me rajouter des services par abonnement? Parce que, tu sais, un service par abonnement, là, tu payes à vie. Mon problème est là, là, tu sais.
Puis ce modèle-là d'économie par abonnement, ça vient des technos, n'est-ce pas? Puis généralement, ouais, la logique, c'est que tu payes pour un abonnement quand l'application est pas ne peut pas vivre entièrement sur ton appareil, donc sur ton, ouais, téléphone ou peu importe. Et là, ça devrait être la même chose. Si ton service nécessite, à bord de ta voiture, de se connecter à Internet pour une raison ou pour une autre, là, ça serait logique que tu payes, ouais, un abonnement. Mais si c'est un siège chauffant qui est entièrement autonome, comme on en parlait avec BMW il y a quelques mois...
Que tu peux avoir déjà en l'achetant.
Ça serait vraiment l'abus.
Alors, on
là.
Va voir, mais mm-hmm. on a parlé qu'on irait là.
Ouais.
Alors, nous, on va à la pause et on va revenir avec notre invité de la semaine, Daniel Breton, qui va nous parler des véhicules zéro émission.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, vous le savez, probablement, le secteur des transports représente environ 25 % des émissions de gaz à effet de serre au Canada. La moitié provient des automobiles et des camions légers. Le gouvernement du Canada a, depuis 2018, une loi des véhicules zéro émission. Mais on aimerait un peu renforcer cette loi-là. Pour en parler avec nous, on a un régulier à l'émission, Daniel Breton, qui est PDG de Mobilité électrique Canada. Merci. Salut, Daniel.
Bonjour, monsieur, ça va bien?
Ben oui, merci d'être là. Écoute, parle-nous, t'as mis sur pied un projet qui prend la forme d'à peu près 8 vidéos que vous allez faire, qui peut être vu par monsieur, madame, tout le monde. C'est en anglais, en français. Pour un peu sensibiliser. Parle-nous un peu de ce projet-là, puis dans quel sens vous essayez d'encourager le gouvernement à arrêter de ramper puis commencer à marcher un peu plus vite, là.
Ben écoutez, très simplement, c'est que quand on parle de normes zéro émission, les gens ne savent pas trop ce que ça veut dire, une norme zéro émission. Quand on parle de VZE, les gens savent encore moins ce que c'est un VZE.
Oui, ils pensent que c'est une sorte d'auto.
Oui, voilà, exactement. Hier, je participais à une conférence de presse, quelqu'un parlait de V6, puis là, je dis, ben, aujourd'hui, on a les Kia EV6.
Oui,
c'est vrai que c'est
vrai. C'est le seul V6 vers lequel on s'en va, mais une fois qu'on a dit ça, il va falloir faire en sorte que le gouvernement du Québec, et ça, j'en ai parlé de nombreuses reprises, renforce sa loi zéro émission au-delà de 2024. Pour augmenter l'approvisionnement de véhicules électriques au Québec. Mm-hmm. Et là, le gouvernement fédéral canadien a annoncé au printemps 2022 qu'il voulait adopter lui aussi une norme zéro émission pan-canadienne. But des vidéos, c'est d'expliquer aux gens c'est quoi une norme zéro émission, c'est quoi un véhicule zéro émission, puis pourquoi ça prend une norme zéro émission.
Oui, puis tu l'as déjà souligné ici à l'émission auparavant. Comme les normes sont pas très sévères, si on compare par exemple à l'Europe ou même à certains États comme la Californie aux États-Unis, ça fait en sorte que notre approvisionnement en véhicules électriques est pas effrayant parce que comme il y a pas de presse et qu'on rencontre les normes sans problème en ce moment, ben on se dit s'il en reste, on va envoyer ça au Québec parce qu'il y a des marchés qui sont un peu plus pressants là.
Exactement. Et c'est donc ce dont on se rend compte, c'est ça. C'est-à-dire que on dit que pour faire en sorte que les gens puissent avoir assez d'approvisionnement, on s'est rendu compte, et d'ailleurs, il y a un rapport de l'Agence internationale de l'énergie qui a été publié il y a quelques jours à peine, qui disait que la réglementation joue un rôle clé, là, que de penser là, que les constructeurs vont tout simplement, de par eux-mêmes, envoyer des véhicules électriques dans les marchés non réglementés, c'est pas de même ça.
Non, puis si on regarde un peu dans l'histoire, tout prouve ça. C'est-à-dire que l'autoréglementation en automobile, ça a jamais fonctionné. Ça, je l'ai répété souvent, mais je le répète encore, les constructeurs vont faire le minimum qu'on leur demande. Alors,
pas tous.
Pas tous, mais la plupart. Oui, la plupart.
C'est ça. Ouais.
Donc, ce qu'il faut faire, dans le fond, Daniel, c'est d'augmenter ou de renforcer les normes. Mais de quelle façon vous allez vous y prendre, par exemple, chez Mobilité électrique Canada, pour essayer de dire au gouvernement fédéral, ça sera le fun de presser le pas un petit peu, là?
Ben, en fait, écoutez, là où il y a quand même quelque chose d'important, je dois le dire, c'est que normalement, le gouvernement fédéral canadien suit docilement les normes fédérales américaines.
C'est vrai.
Oui.
Et là, pour la première fois, le gouvernement canadien dit non. Il dit même si le gouvernement fédéral américain ne veut pas mettre en place de réglementation forçant l'augmentation des ventes de véhicules électriques aux États-Unis d'un point de vue fédéral, je dis, parce que Biden lui a annoncé l'été dernier, nous, on vise 50% de véhicules, de ventes de véhicules électriques d'ici 2030, mais c'est juste volontaire.
Mm-hmm.
Comme le gouvernement canadien avait déjà annoncé qu'ils étaient pour s'aligner sur soit le fédéral ou soit les États américains qui étaient les plus ambitieux, ben l'État étant le plus ambitieux en étant la Californie, ben le gouvernement fédéral a dit ben nous on va s'inspirer de la Californie, donc on va briser un peu ça. Et il y a des constructeurs automobiles qui disent ben écoutez, ce que vous faites, c'est que en faisant ça, vous découplez le marché nord-américain qui est un marché intégré, ça peut pas fonctionner. Mais la réalité, c'est que ce n'est déjà plus le cas depuis plusieurs années parce qu'il y a déjà une quinzaine d'États américains où il y a une norme zéro émission qui correspond à un peu plus de 35% du marché américain, plus deux provinces canadiennes. Ce qui veut dire que lorsqu'on va arriver avec une norme zéro émission fédérale canadienne, on va être presque à 45% du marché Canada-États-Unis qui va être sous réglementation zéro émission.
Ouais, puis c'est probablement assez pour faire pencher la balance. Parce que là, évidemment, en ce moment, les constructeurs regardent puis ils se disent « OK, on va en produire pour certains États, on va aller là. » Mais si on a une norme pan-canadienne, ils vont probablement considérer ça dans l'ensemble des choses à produire et envoyer comme plus important, j'imagine.
Ben écoute, je peux même te dire qu'il y a des présidents d'entreprises qui m'ont dit récemment, sous le couvert de l'anonymat, bien entendu, que eux, ils seraient très, très contents d'avoir une norme fédérale zéro émission parce qu'ils diraient, on pourrait se retourner vers notre constructeur de notre pays d'origine, leur dire, ben là, il y a une réglementation, il faut que vous nous en fournissiez plus.
Exact.
Donc, pour eux, c'est un enjeu, mais il y a aussi pour les concessionnaires. C'est-à-dire que de plus en plus de concessionnaires se font forcer par des constructeurs automobiles de moderniser leurs magasins, leurs concessions, parce qu'ils disent, ben là, l'arrivée des véhicules électriques arrive,
ouais.
Vous allez devoir investir un demi-million, un million, deux millions pour moderniser. Sans ça, vous ne pourrez pas vendre de véhicules électriques. Sauf que si d'un côté, les concessionnaires investissent plusieurs centaines, voire des millions de dollars pour une concession pour laquelle ils n'ont pas de véhicule à vendre, je trouve que c'est un peu...
Ouais, c'est un peu embêtant.
C'est un peu enrageant pour les concessionnaires.
Oui, c'est un peu enrageant. Puis, tu sais, bon, évidemment, il y a un temps pour amortir parce que l'investissement, il y a un amortissement qui est derrière ça. Mais comme tu dis, s'il n'y a pas d'approvisionnement, ton temps d'investissement, d'amortissement va être très long.
Oui, oui. Voilà. Et j'ai entendu aussi récemment qu'hier quelqu'un dire que ben, tu sais, si on forçait les constructeurs à vendre un pourcentage croissant de véhicules électriques, ça ferait en sorte que pour arriver à atteindre ces objectifs-là, ils diminueraient l'approvisionnement de véhicules à essence.
Ah oui, ouais.
Il y a quelqu'un qui m'a dit ça, sauf que moi je peux te dire que dans les États où il y a eu des normes zéro émission ailleurs, parce qu'on va se le dire, là, la norme zéro émission en Californie existe depuis 32 ans, puis dans la plupart des États américains, puis au Québec, en Californie, là, il n'y a pas un seul État ou une seule province où ils ont dit « on va faire exprès de vendre moins de véhicules à essence pour être capable d'avoir un meilleur pourcentage de véhicules électriques ». C'est pas arrivé.
Non, puis tu sais, on le voit là même chez les constructeurs automobiles, je regarde du côté de GM, entre autres, où on a dit aux concessionnaires américains et canadiens, par le fait même, nous, on s'en va vers l'électrique. Si cela ne vous intéresse pas, vous êtes des commerçants indépendants, vous pouvez vous en aller. Il y a quelqu'un, ouais. Nous ou quelqu'un d'autre va racheter votre licence, mais faut que vous compreniez que l'avenir, nous, est électrique. Puis si ça vous intéresse pas d'embarquer, ben vous débarquez maintenant. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'il y a à peu près 20% des concessionnaires automobiles aux États-Unis, dans la marque Cadillac, là, pour la nommer, qui, eux, sont partis, puis il y a seulement 4 concessionnaires au Canada qui sont partis. Mm-hmm. Donc, je pense que ici, les gens là sont prêts. Tu sais, sont prêts. Comme tu dis, il y a des investissements à faire. J'étais hier à écouter une conférence sur la Celestiq, le prochain modèle Cadillac qui s'en vient. Je donnerai pas les détails parce qu'il y a un embargo jusqu'au 17 octobre, mais il va y avoir là aussi des coûts importants pour les concessionnaires par-dessus les coûts qu'on a déjà investis pour être électrique. Là. Il va y avoir vraiment, bon, c'est un véhicule qui va
un
se rendre... C'est un repositionnement, ouais. Parce que ce véhicule-là va être plus de 300 000 $ US. Là. Vous imaginez un peu, oui, ça va être de la sérieuse bagnole. Mais pour les gens qui vont s'embarquer, c'est pour ça qu'on prévoit qu'il va y avoir un petit pourcentage. Mais tu sais, on se place vraiment là. Puis je pense que si on veut, comme pays, avoir ce à quoi on est en droit de s'attendre, ça va prendre une participation gouvernementale. Je pense que tu es allé en Norvège. Ben oui, tu es allé en Norvège, Daniel. Je pense que c'est le plus bel exemple. Là-bas, le gouvernement a pris parti du côté de l'électrique et ça paraît. Alors, donc...
Exactement. Puis, excuse-moi de t'interrompre, Benoît.
Vas-y.
C'est que là où la réglementation est la plus contraignante, que ce soit en Europe, en Norvège en particulier ou en Chine, on voit les ventes de véhicules électriques augmenter de façon radicale. Là. Écoutez, il y a un article qui est sorti il y a quelques jours à peine qui disait qu'on a assisté à une baisse du pourcentage de vente de véhicules hybrides rechargeables et 100% électriques en Norvège. Là, on était rendu seulement à 89% pour le mois de juin.
Oui, seulement à 89%. C'est une baisse.
C'est vraiment dramatique. Mais écoutez, moi, je sais qu'on est dans une période où il y a des constructeurs et des associations de concessionnaires qui brandissent la menace, puis tu sais, ils disent, ça va être épouvantable. Moi, je me rappelle, quand il y avait eu des discussions autour de la norme zéro émission au Québec en 2016, il y avait même un constructeur qui avait menacé de partir du Québec si la norme zéro émission était adoptée au Québec. Et quelqu'un qui était un propriétaire de concession m'avait appelé, il dit, est-ce que tu penses que c'est possible? J'ai dit, va voir tous les États américains où il y a une norme zéro émission, et dis-moi le nombre de constructeurs qui ont quitté combien d'États. La réponse était zéro dans zéro État.
Ben oui.
Et il y a eu une norme zéro émission au Québec, puis il y a eu zéro constructeur qui a quitté.
Non, c'est ça. En fait, c'est que l'industrie se prépare à ça. Sauf que, à un moment donné, c'est ça. Faut, tu sais, la préparation, c'est une chose. La réalité, à un moment donné, faut qu'elle arrive.
Oui, mais puis... la loi approche, hein, fait qu'on essaie de faire peur au monde.
Ah oui, tu penses. Mais je pense que, tu sais, en fait, c'est de retarder l'inévitable. Tu sais, où on embrasse le changement, où on prend sa retraite, là, à un moment donné. Je pense qu'on en est là. Puis plus le gouvernement fédéral sera proactif là-dedans, moi, je pense que ça va juste être bon pour l'industrie parce qu'on va enlever des barrières puis on va amener. Parce que, tu sais, j'étais chez Volkswagen puis je vais en parler tantôt. Mais je parlais de la demande qu'il y a du côté du Canada versus ce qu'on est capable d'envoyer. On est extrêmement loin de la réalité. Et même si on a une usine qui va être du côté américain, ça va prendre un an avant qu'on puisse être capable d'arriver à peu près à répondre à la demande. Parce que là, les chiffres augmentent pas rapidement au niveau de la production, mais la demande, elle, augmente de façon exponentielle. Fait qu'on n'arrive pas encore à sortir la tête hors de l'eau de ce côté-là. Et tu sais, je suis convaincu que si on a un meilleur approvisionnement ici, les ventes vont exploser, là, littéralement. Là.
Absolument. Puis le prix du litre a descendu un peu, mais là, il a recommencé à monter.
Ah, mais tu sais, on s'entend, écoute, quand t'es heureux de payer une 64 le litre, là, c'est parce qu'on on est dévié de la réalité un peu, là, tu sais.
Oui, voilà.
On est plus là. Fait que, écoute, un gros merci, Daniel. C'est toujours intéressant, comme à chaque fois. Puis, quand on aura des mises au point à faire, t'es notre premier appelé, c'est garanti.
Merci. Au revoir, messieurs.
Merci. Alors, c'est Daniel Breton, qui est président directeur général de Mobilité électrique Canada, qui nous parlait évidemment des normes de véhicules zéro émission. Je pense que c'est un sujet qui va revenir parce que c'est dans l'air du temps. Je veux pas. Ouais. Nous, on va à la pause. On revient avec nos essais routiers tout de suite après.
Vous écoutez « Ça tient la route » avec Benoît Charrette et Alain McKenna.
Alors, c'est l'heure de nos essais routiers, mais avant de passer là, comment nous écouter? Chaque semaine, « Ça tient la route », on est sur les plateformes populaires, Google, Spotify...
Deezer,
entre autres. Il y en a quelques-unes, Apple. Oui. Et, bon, et
toute la gang.
Vous pouvez aller sur 98.5fm.ca, dans la section « Balado ». Et vous avez « Ça tient la route » qui, avec toutes les productions de C23, sont là. et sur annuelauto.ca. On fait une mise à jour chaque semaine sur le site web de l'annuel de l'automobile, donc pour nous écouter, mais abonnez-vous donc. C'est la façon la plus simple, la plus facile. Je remercie les gens parce que je reçois littéralement des courriels chaque semaine, des gens qui ont des commentaires, qui ont des questions, mais c'est encourageant de voir qu'il y a au moins deux personnes qui vous écoutent.
Ah, écoute, c'est près minimum, c'est certain.
Alors Alain, tu nous parles d'un mastodonte,
ouais.
Rien de moins, Grand Wagoneer L.
Un de ces rares véhicules qui, quand on parle dans l'habitacle, il y a de l'écho qui nous répond.
Oui.
C'est quand même assez grand.
En fait, il y a deux codes postales, un pour l'avant et un pour l'arrière.
Exactement. Le Grand Wagoneer, comme tel, était nouveau l'année passée. Et cette année, ce qui est nouveau, c'est qu'on a une édition allongée qui s'appelle le Grand Wagoneer L. Écoute, c'est plus gros que gros.
Pensez à un Suburban, là.
Ah mettons. Oui, puis plus que ça, quelqu'un faisait une référence pas mauvaise par rapport au Ford Excursion d'une autre époque, qui était
oui.
un VUS qu'on devait plaquer commercial, plaquer L.
Oui, parce que ça
c'était trop gros.
Voilà, le poids, c'est épouvantable.
Exact.
Ça pesait 3 tonnes, je pense, ou un affaire de même.
Là, on a un véhicule qui fait 5,7 mètres. Il était allongé par rapport au Grand Wagoneer tout court de 30 cm. Le plus gros de cet espace-là, ça va dans le coffre, là, où on a fait passer le volume utile de 800 à 1250 litres. Donc, c'est un gain appréciable.
Ça, c'est avec tous les sièges remontés.
Là, on
ça,
pas,
c'est juste cet espace. Fait que, imaginez que si vous baissez tous les sièges.
Je pense qu'on peut jouer au basketball dedans.
Vous pouvez rentrer, vous pouvez faire des roadies pour un groupe rock.
Exact.
Je pense qu'il rentre à cette stock.
Cela dit, parce qu'effectivement, il y a 3 rangées de sièges et donc on peut asseoir extrêmement confortablement 6 personnes, peu importe où. Il y a beaucoup d'espace pour les jambes. Ce sont, dans le véhicule que j'avais, on avait des sièges capitaine, donc c'était vraiment 6 places, et non pas 7 ou 8, là, ce qui est possible aussi. Bon, on peut rigoler, hein, on peut classer ce véhicule-là dans la catégorie des minibus, parce que c'est gigantesque. Et j'irais même plus loin, puisqu'on parle d'un minibus de luxe. Son prix de détail demeure un peu au-dessus des 100 000 $ là, et plus on l'équipe, plus on avoisine vraiment les 125 000 $ Donc, c'est du luxe. C'est drôle pour un véhicule Jeep de parler de véhicule de luxe.
Oui. Mais
Jeep ne veut pas arrêter son coup. Là. On trouve à bord des téléviseurs partout pour tout le monde et encore plus d'écrans tactiles si on inclut l'affichage des commandes pour la climatisation et les sièges qu'on trouve à l'avant, mais aussi à l'arrière, dans l'espèce de console des sièges intermédiaires. Il y a, parlant de téléviseur, il y a un écran dans le tableau de bord côté passager, en plus du système multimédia central. C'est vraiment fou. Il y a des écrans partout. Il y a des ports HDMI. On peut brancher des consoles, des lecteurs de DVD pour ceux qui en ont encore. Il y a vraiment... À l'avant, évidemment, les deux sièges sont comme on peut s'y attendre, chauffés et climatisés. Mais ils ont aussi droit à un système de massage qui est probablement le plus sophistiqué sur le marché. Donc, avec un Jeep, normalement, tu sais, on traverse des sentiers avec des grosses roches, tout ça. Ben là, on n'a même pas besoin de traverser des sentiers pour se faire brasser.
Tu peux le faire en te faisant masser le dos.
Mais on peut avoir, effectivement... se faire masser comme il faut là, la colonne. Toujours à l'avant, ben on a le droit au système multimédia Uconnect, là, qui est excellent,
oui.
Mais qui a quand même bon ses caprices. Notamment, et ça, c'est un peu bizarre, il est trop lumineux de jour comme de nuit. Il y a des réglages.
J'avoue que de nuit, ça m'a un peu agacé.
Ben, c'est très
parce
agaçant.
Parce que t'as comme l'impression d'avoir une lampe de poche.
Ah non,
conduit, de la lumière.
C'est pas commode. Puis il y a aussi, en dessous de l'écran Uconnect, du système multimédia, il y a un deuxième écran pour ajuster la climatisation ou les sièges, qui lui aussi est lumineux, mais ne peut pas être ajusté à la même luminosité automatiquement que l'écran. En tout cas, bref, c'est un paquet de troubles pour rien.
Il faut les ajuster indépendamment, c'est ça que tu me dis.
Exact. Okay. Et ça revient à dire, tu sais, des fois, trop de technologie, c'est comme pas assez, là. Parlant de trop en faire, d'ailleurs...
Ça, c'est un gars de techno qui vous dit ça.
Ah,
je dis ça de même, en passant, là.
On peut parler longtemps de ces choses-là. D'ailleurs, il y a une autre balado que je vous recommande, mais en tout cas, on va sur une conversation.
Oui, oui. La tasse de tech.
Exactement.
Évidemment.
Parlant de trop en faire, justement, parlons du V6 biturbo de la gamme Hurricane qui équipe ce VUS. Fiche technique très à l'avenant, là. Puissance de 510 chevaux et un couple de 500 livres-pieds. Jeep promet quand même, malgré ça, une réduction des émissions polluantes de ce véhicule, de ce moteur-là. Pardon, de 15% par rapport au V8 de 6,4 litres qui équipe le Grand Wagoneer tout court.
Ouais.
V8 qu'on ne trouve pas à bord du L, ça dit en passant.
Oui, puis le 6.4 qui va disparaître à partir de l'année prochaine.
Ben voilà, parce qu'on s'entend, les V8...
Le Hurricane, là, c'est ce qui va remplacer tous les V8 dans la gamme. Là.
C'est une gamme de V6 biturbo, parce que le 510, c'est celui-là, mais il y en a d'autres moins puissants aussi qu'on va revoir plus tard. Parlant du Hurricane 510, on dit chez Jeep qu'il peut parcourir 100 km, tout en consommant 1,7 litre de moins de carburant que le V8 en question. Écoute, ce serait le fun si ça faisait toute la différence du monde, mais là, on a un problème en partant, c'est que ce moteur-là carbure au super,
Oui.
Donc, on est rendu à quoi? 2,19 le litre? Je sais pas trop.
Super, non. 1,94, 1,93. J'en ai mis cette semaine dans mon GMC Denali Ultimate.
Ah bon. Parlant de démesure, ben oui,
c'est ça. Parlant de démesure,
ben
oui.
Voilà. Et dans le cas du Grand Wagoneer L, consommation qui avoisine les 18 litres au 100 km à vide, là, j'ai rien remarqué pour arriver à ce super total-là. Donc, côté finances personnelles, ça rentre au poste, comme on dit, n'est-ce pas?
Oui. Malgré le fait que le 6-cylindres est probablement efficace, faut pas oublier que le véhicule est hors norme,
dans
tous les termes du mot, dans tous les sens du mot, puis c'est extrêmement lourd aussi. Là.
Exactement. Cela dit, la conduite est hyper douce. Et il y a des choses où c'est ahurissant, parce que les constructeurs américains excellent dans les gros véhicules pour faire des affaires qui se conduisent comme un charme.
Oui.
Malheureusement, ils sont un peu trop gros. Là, dans ce cas-ci, on a une boîte automatique à 8 rapports qui fait de l'excellent boulot. J'espère qu'elle va être plus durable que les boîtes de transmission automatique réputées chez le groupe Chrysler pour être plutôt fragile.
Oui, les anciennes boîtes.
Ils ont l'historique de faire pitié, disons-le comme ça. Il y a le rouage intégral Quadra Drive 2, qui est lui aussi très excellent. On peut ajuster évidemment son réglage avec un sélecteur là, sur la console. Le véhicule peut remorquer 10 000 livres. Pourquoi pas, n'est-ce pas? C'est vraiment un mastodonte qui a pas peur non plus de se salir dans les sentiers. Tout est là pour faire un véhicule.
Ça vous prend un sentier assez large, par exemple.
Ça prend, oui, effectivement. Et ça prend aussi une réponse à la question suivante. Qui veut oser salir un véhicule de 125 000 $ dans un sentier de terre battue de petites roches qui va graffiner la carrosserie à tout bout de champ?
Ça serait pas moi.
Non, ben ça sera pas toi, ça sera pas plein de monde non plus, parce que selon les données de l'industrie des derniers mois, là, les gros VUS comme celui-là et même le Suburban et les autres sont en train de fondre. Les ventes de ces véhicules-là sont en train de fondre comme neige au soleil. Les gens se rendent compte que ça n'a aucun bon sens, que c'est hors de prix et que ça coûte extrêmement cher. Et même si le Grand Wagoneer, elle, a beaucoup à offrir, ben quand on voit ce que ça coûte pour en bénéficier, on comprend pourquoi il y a peu de gens qui veulent justement en bénéficier. Donc c'est un véhicule amusant, disons, de loin.
c'est ça. En fait, ouais. Non, ça va aller chercher une certaine clientèle, sauf que c'est des véhicules aujourd'hui qui ont moins raison d'être.
C'est le phénomène Range Rover, c'est-à-dire qu'il est conçu pour une utilité, mais les gens l'achètent pour une autre utilité qui les rend inutiles.
Moi, je suis un peu plus dans l'air du temps cette semaine. Je suis allé à Chattanooga la semaine dernière pour faire l'essai de modèle Volkswagen. En fait, le ID4 2023. Vous allez me dire, c'est quoi la différence? C'est pas des grosses différences. En fait, visuellement, ça va être assez difficile de voir une différence entre le modèle 22-23. Il faut dire que le ID4 est arrivé en 21. Donc, c'est pas un gros modèle. Pour 2023, le ID4 profite d'une nouvelle version de base qui est baptisée tout simplement Standard. On s'est pas cassé les pieds. Ça va se vendre. C'est la raison d'être de ce modèle-là, c'est 43 995. Donc, c'est un modèle moins cher. Il y a une batterie un peu plus petite, par contre, 62 kWh, ce qui se traduit par une autonomie de 336 km, ce qui est pas mauvais. Vous avez ensuite deux versions, la version Pro du ID4 avec une batterie de 82 kWh, puis la version Pro à roues motrices arrière, donc deux roues motrices, qui, lui, va offrir 443 km d'autonomie, alors que le modèle all-wheel drive, lui, fait 410 km. Là, ça vous situe un peu où on est. On a quelques nouveaux équipements, tels qu'un écran tactile central de 12 pouces pour tous les modèles. Donc, on a agrandi l'écran à l'intérieur.
Le même système tactile dégueulasse?
Ouais, malheureusement.
Excusez-moi.
Non, mais t'es allé direct au point, effectivement. On a agrandi l'écran, mais on n'a pas amélioré le système. Il y a un système de stationnement automatique qu'on a aussi. T'as certains véhicules qui ont ça. Il y a des nouveaux revêtements de sièges avec des nouvelles couleurs. T'as par exemple, en option, t'as un volant blanc.
Oh boy!
C'est spectaculaire. J'ai juste peur
faut
que ce soit
salissable.
C'est ça. Là, moi, c'est ma première crainte, c'est de dire ça va être tout sale dans un an, ça. Mais le côté look, ça fesse.
Ah oui, ça doit.
Ils ont aussi amélioré les recharges, c'est-à-dire qu'il peut être rechargé rapidement. En courant alternatif, en courant continu, on a une prise de charge rapide de 170 kW. On était à 140 auparavant, donc on a avancé un peu à ce niveau-là. Ça permet à tous les modèles de ID4 de réaliser une charge rapide en courant continu de 10 à 80% en 30 minutes environ. Petite ou grosse batterie, parce que la petite, évidemment, ça va, il y a moins à charger. Donc les deux, on arrive à peu près autour de 30 minutes. le modèle qui va se vendre ici, c'est le Pro All-Wheel Drive. On dit, en ce moment, là, depuis 2021, on a fait des statistiques du côté de Volkswagen Canada. Mm-hmm. 96% des acheteurs canadiens ont pour la version All-Wheel Drive en ce moment.
Ouais.
Ça laisse 4% pour le reste. C'est pas grand-chose. Tous les modèles ID4, en fait, il y a deux provinces qui achètent, c'est le Canada. Mais en fait, ce qui arrive, c'est que le modèle n'est pas disponible dans toutes les provinces, étant donné le peu de modèles qu'il y a à vendre.
Et puis la liste d'attente est longue déjà, non?
La liste d'attente, c'est un an et demi minimum, deux ans dans bien des cas. Ce qu'on nous a dit, c'est que là, on a commencé. Écoutez, j'ai une photo que j'ai mise, vous irez voir sur annuelauto.ca. J'ai fait l'essai routier cette semaine du véhicule. Il y a un stationnement. Là, on fabrique 25 ID4 à l'heure à l'usine de Chattanooga au moment où on se parle.
Okay.
Là, on veut passer d'ici l'an prochain à 45 à l'heure. Là, en ce moment, il y a deux problèmes. Approvisionnement. On pourrait passer, mais il faudrait acheter de l'équipement. Mais même si on achetait cet équipement-là, il y en a pour 3 millions de dollars d'équipement acheté. On n'a pas assez de pièces pour passer à 45 modèles à l'heure. Donc, c'est ce qu'on vise. Donc, pour le moment, on est à 25 modèles à l'heure. Et là, on dit qu'à partir de fin 2023, donc ne vous lancez pas chez les concessionnaires demain matin, on devrait être en mesure de répondre à la demande au niveau des modèles. Donc, on est assez optimiste. Et là, on dit que maintenant, parce que l'usine de Chattanooga produit des véhicules uniquement pour le Canada, les États-Unis et le Mexique. Donc, ça va pas en Europe, ça va pas ailleurs, c'est une production locale.
Mm-hmm.
Et on souhaite qu'on puisse, disons, diminuer la liste d'attente. Et là, tous les concessionnaires Volkswagen au Canada vont avoir des modèles à partir de l'année prochaine. Parce que là, c'est vraiment une petite partie des concessionnaires qui en ont. On va améliorer ça. Nous, on a essayé surtout le modèle 4 roues motrices. On a fait un petit tour avec le modèle de base. Mm-hmm. C'est le modèle qui intéresse tous les gens ici. J'ai bien aimé. D'abord, il y a un bon espace, tant pour les conducteurs, les passagers que les bagages. Il y a une conduite, il y a pas de conduite à une pédale. Donc ça, il y a des gens qui vont moins aimer ça. Moi, ça m'a pas fatigué. Il y a un D et il y a un B. Mm-hmm. En B, là, c'est assez agressif. Puis on réussit à faire une bonne autonomie. Donc moi, j'ai pas eu de problème avec ça. Ceux qui posent la question, remorquage 2700 livres. On peut quand même traîner un bon poids.
Je serais curieux de savoir c'est quoi la proportion des gens qui conduisent à une pédale sur les véhicules où c'est disponible.
Moi aussi, je serais curieux de voir ça. Moi, j'avoue que ça m'énerve un peu la conduite à une pédale. Je trouve ça un peu agressif à mon goût.
Fait qu'une échelle de deux personnes, c'est moitié-moitié.
C'est ça, c'est moitié-moitié, exactement. Mais cela dit, les modèles vont arriver bientôt. On a évidemment pas mal de technologies. On a rajouté certaines choses comme le régulateur de distance de stationnement avant et arrière, régulateur de feu de route. Il y a les aides à la conduite IQ Drive qui sont proposées sur tous les modèles, qui comprend le maintien de la voie, régulateur de vitesse adaptatif avec le stop and go, reconnaissance des panneaux de signalisation, etc. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on va finalement avoir une production. J'espère que d'ici l'année prochaine, on va être capable de mettre assez de véhicules sur la route pour répondre aux besoins. Mm-hmm. Cela dit, c'est un véhicule intéressant qui est à mi-chemin entre la familiale et le VUS.
Il y en a d'autres qui s'en viennent, ID Buzz, ID6, ID3,
mais pour l'Europe. Mais il y a d'autres modèles qui s'en viennent, mais pour le moment, on va beaucoup pousser sur le ID4 ici.
Ben, c'est une bonne formule.
Absolument. Ben voilà, ça met fin à notre émission. Merci d'avoir été là, Alain. Merci à Daniel Breton. Merci à Claude Hébert à la console. Nous, on vous dit à la semaine prochaine. On va parler encore de véhicules fort intéressants. J'ai un petit pick-up pour vous dans ma tête. Et toi, tu roules quoi cette semaine?
Cette semaine, j'ai une Camaro SS, imagine-toi donc.
Ah, ben tiens, on va chez Chevrolet la semaine prochaine. Alors, on vous attend, on va parler de ça ensemble. Salut tout le monde!
Bye! Bye. Bye.
C'est 23.